Bienvenue à la French Connection. Et cette semaine, je suis avec Damien.
Bonjour tout le monde.
Avec Steve.
Bonjour.
Guillaume.
Bonjour.
Et Patrick.
Salut tout le monde.
Donc, cette semaine, on va parler essentiellement du concours de social engineering qui a eu à Christ et plein de nouvelles qui connectent à ça. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire les chemins plug. 22 novembre, Québec Sec, allez prendre une bière en groupe post-ACFest, puisqu'il y a plein de belles nouvelles à se discuter et d'expériences à partager. Le 5 décembre, ISACA présente la sécurité des systèmes d'information dès leur conception. Le 22 et 23 janvier, je serai à Lille avec Damien au FIC.
Et nous allons tester un restaurant de poutine.
Oui, monsieur.
Oh oui. C'est une surprise, Damien.
C'est du sérieux et on nous fera un podcast croisé avec nos limites sécu, donc ça va être très intéressant. Et finalement, le 8 avril, le Sécure organisé par Québec Numérique pour fédérer tous ces efforts de sécurité dans un seul et même événement. Donc, commençons par, on va parler du financement de la sécurité ou peut-être l'absence de financement.
Oui, c'est quand même intéressant parce que là, de plus en plus, les écoles veulent s'orienter vers l'utilisation du e-sport pour, je dirais que peut-être même motiver les élèves à travailler parce qu'il y a quelques années, c'était le sport et il y avait des programmes de sport-études qui donc entraient dans les écoles s'associaient avec des facilitations sportives et donc il y avait émergence des talents sportifs. Maintenant, ça se voudrait d'être le talent électronique, donc de jeu en ligne parce que ça devient une discipline, ne veut pas, là, la mouvance populaire l'a amené ainsi. Ce qui m'amène à la réflexion où ce qu'ils ont annoncé cette semaine au gouvernement du Québec, certaines coupures potentielles dans les commissions scolaires, alors qu'ils voudraient peut-être intégrer davantage le e-sport. Mais si on s'adonne à faire du e-sport, présentement, ça se fait de moyens parascolaires et non pas dans l'institution scolaire, mais j'anticipe assez vite que ça va rentrer dans les écoles. Et si c'est le cas, bien, les écoles actuelles, ils font vraiment pitié en termes de ressources informatiques. Et on voudrait peut-être imposer ça sur les écoles. Ma question vraiment qui était lancée aux 80, c'est ça veut-tu dire qu'il va falloir qu'ils refondent un peu le fondement du financement scolaire? Ça va-tu être traduit dans une augmentation des taxes scolaires pour refaire les réseaux informatiques? Le backbone, il faut s'entendre, il est déjà très bien structuré. Les fibres optiques sont partout dans les écoles au Québec. Mais par contre, la gestion à l'intérieur des commissions scolaires, elle est vraiment dramatique. Et c'est là que ça,
dire, bonjour à mon...
ça va donner ce résultat-là que d'amener le e-sport dans l'organisation.
J'aimerais dire bonjour à mon responsable de l'informatique à mon école secondaire. C'était une personne qui avait étudié en art.
Les diagrammes vont être beaux.
Je pense que oui. C'était magique.
De voir de la couleur.
Ouais, l'imprimante 3D. Mais... T'sais, c'est un méga problème. Imagine si ça devient vraiment populaire et ils veulent mettre ça en place. Là, les frais reliés à ça vont être ridicules.
Et dans tous les cas, l'e-sport va clairement être une section aujourd'hui des études. Moi, je le vois ici en France et en Europe. Oui. On ne peut plus faire sans l'e-sport. Quand tu regardes déjà que le football américain ou le baseball ou le hockey, les mecs sont remplis de capteurs pour des statistiques. Oui. Donc, c'est de l'argent. Le jeu vidéo... Oui. Et rentre aussi dans le sport maintenant parce que c'est de l'argent, des passionnés, des sponsors. C'est une obligation. Et quand on voit les gamins, comment ils sont, les enfants, pardon, nos adolescents, nos lycéens et autres, attirés par le sujet, c'est aussi des métiers d'avenir. Donc, ils sont obligés maintenant, nos écoles et en tout cas nos dirigeants autour de l'éducation, de prendre ça en main. Sinon, on va être encore en retard et on va être bouffé par d'autres pays. Et puis après, on va se dire, c'était une potentialité d'emploi pour nos enfants. Mais pas que ceux qui jouent, tous ceux qui vont s'occuper de tout ce qui est autour de ce nouveau monde.
Mais Patrick et Nicolas, moi, ce que je vois encore là, une belle opportunité d'étendre le Hackfest qui va être en mode distribué avec les écoles pour faire des ateliers live et peut-être rehausser la position des écoles.
On a créé le Hackfest Génération pour les enfants, voilà 3 ou 4 ans déjà, qui a malheureusement jamais levé par manque de bénévoles, mais
C'est le standard du problème de bénévoles parce qu'il y a eu quand même d'autres initiatives. C'est plus un problème de financement et de volonté des institutions scolaires à vraiment y avoir un intérêt réel.
J'étais bénévole parce que j'ai eu une école qui m'a dit « Je te donne 300 personnes demain matin et il n'y a pas de problème. » On a eu l'intérêt des écoles énormément. Puis le seul frais qu'il y avait à payer, c'était la bus. Et ça, c'est pas un problème quand tu te prends à l'avance parce que les écoles vont planifier des sorties durant l'année, mais il ne faut pas que tu leur demandes 2 semaines avant, évidemment. Mais l'autre point, c'est qu'on devrait avoir un bénévole pour gérer le tout l'année prochaine.
Et le projet Jeune Métier que je t'ai parlé, où ce que ça se développe de mon côté, mais je t'en parle en dehors des ondes.
Cool, cool. Mais oui, c'est quelque chose qu'il faut qu'il arrive. Et évidemment, ça, on s'en va vers là.
Yes.
Tout à fait. Puis en parlant de financement, mm-hmm. Il y a certains problèmes avec ça.
Est-ce qu'on parle encore des commissions scolaires?
Entre autres, oui.
Ben, c'est encore une fois, l'annonce que le gouvernement a fait, c'est qu'il veut vraiment couper, il veut réduire les coûts, mais c'est certain que la technologie, à la vitesse qu'elle avance, beaucoup d'écoles ont encore là du matériel périmé qui ont besoin de changer, qui ont besoin d'être mis à jour. Fait que c'est là que ça amène où la fonction, la vocation d'une école, ça devient-tu justement un autre lieu de... Ça a toujours été un lieu d'apprentissage, mais là, ça devient un lieu où c'est de la dépense, où ils ne peuvent pas garder, planifier sur 10 ans de garder un ordi, et le réseau, de la manière qui est structurée. Je veux dire, il y a tout un travail herculéen à faire là-dedans. Je l'appelle herculéen parce que j'en ai vu des écoles, des commissions scolaires, que c'est pas pour rien qu'ils se font rentrer dedans, excusez le terme, avec du ransomware. Ça lui prend 3-4 mois à sortir de la chenoute parce qu'ils sont vraiment mal à manger, parce qu'ils ne savent pas dans quoi qu'ils travaillent.
Les gens sous-estiment énormément le coût que ça associe avec les nouvelles technologies. Ils ont l'impression que parce que le beau-frère passe dans le sol ou peu importe la raison, c'est peu dispendieux. Puis beaucoup de mauvaises perceptions, c'est que c'est comme si on essaie d'économiser sur les boulons qu'on utilise pour un pont. Ah non, mais c'est pas grave, là. C'est des bons boulons, mais on économise quand même, mais ils vont éclater au bout de 5 ans, mais c'est pas grave. Fait qu'on a cette réflexion-là au niveau des TI en pensant que c'est juste du dématérialisé, c'est pas grave, c'est des bits sur un fil. Ça n'a pas de coût quand dans les faits, ça a un coût de mise en place qui est quand même assez substantiel. C'est un coût d'infrastructure, c'est comme une route. On faut le voir la même chose. On n'entretient pas, ça fait des trous, puis c'est pas bon. Puis ça prend des gens pour l'entretenir, des gens qualifiés qui sont formés pour le faire.
Mais ils ne payent pas. L'affaire là-dedans, c'est qu'il pourrait avoir des gens très compétents, mais aussitôt que quelqu'un atteint un niveau de compétence X, il est recruté ou il s'en va vers une job plus payante, qui est beaucoup plus intéressante aussi, à 3 fois le prix souvent. Parce que je regardais justement la mise en marché, là, une fois que quelqu'un est compétent et certifié, puis j'en forme les gens, là, justement, de beaucoup de commissions scolaires, c'est que les gens, ils vont se mettre à jour, pour être capables aussi... D'où ce qu'ils en sont, où ils s'en vont. Puis après coup, ils sont souvent liés de la liberté qu'ils peuvent appliquer, les connaissances nouvelles qu'ils viennent de prendre, parce que soit la gestion ou la direction avec lesquelles ils font affaire, bien, ils n'ont aucune idée où ce qui s'en va la personne avec ça, parce qu'ils ne savent pas vraiment, technologiquement parlant, dans quoi qu'ils sont et c'est quoi qui est à accomplir comme travail, non plus la mesure de vérifier le travail, s'il est bien fait ou pas, et de le comparer avec ce qui se fait sur le marché, d'ailleurs, ou d'autres organisations, parce qu'ils se donnent des fois des compétitions quasiment entre les commissions scolaires et les écoles, alors qu'ils devraient s'entraider.
Tout à fait, puis c'est peut-être un problème de culture au niveau de comment on voit les TI. Puis on peut voir un exemple qui est quand même assez intéressant au Japon, quand même.
Oui, parce que le nouveau... Le nouveau responsable de la cybersécurité au Japon est maintenant un ministre de la Chambre des représentants et c'est une personne qui, maintenant, les gens autour du monde ont appris que c'est une personne qui n'a jamais utilisé d'ordinateur. Il y a de la misère à distinguer c'est quoi une clé USB, etc. Et j'ai trouvé ça comique que les gens ont pris ça en dérision, quasiment le rire du bonhomme, comme quoi que tu t'occupes de la cybersécurité, mais tu n'as aucune idée dans quoi tu t'embarques. Tu n'as jamais travaillé avec ça. Alors que je me dis que c'est une personne quand même qui œuvre avec le gouvernement japonais depuis des dizaines d'années, ça n'empêche pas la personne d'avoir les compétences de gestion et de savoir bien s'entourer pour être capable de faire le travail. Je l'ai fait dans mon service militaire où J'en étais donc un point de référence en matière de cybersécurité et les patrons pour qui je travaillais, souvent, ça n'était que des simples opérateurs pour être capables d'envoyer un courriel ou de taper une lettre de quoi que ce soit, mais leur connaissance était vraiment de base. Alors qu'il fallait qu'ils prennent des décisions sur des mises en place de tactiques et d'opérations, ils appelaient justement les gens autour de lui pour être capables de se faire éclairer et à ce moment-là, prendre une décision basée sur l'information qu'il a eue. C'est ça son rôle. Fait que moi, je le vois très bien, ce bonhomme-là, à faire un bon rôle. Si je n'ai jamais eu la possibilité de mesurer sa compétence en gestion, mais advenant le cas que c'est un bon gestionnaire, ben, il devrait être capable de livrer la marchandise parce que le programme de cybersécurité, il est en place, il a été nouvellement repeint, si je peux utiliser cette analogie, et ils vont à ce moment-là mettre le Japon quand même sur la traque un peu plus rapide, disons, vers le 22e siècle, on est toujours juste au début du 21e, pour être capable d'être plus compétitif et surtout que le Japon demeure à ce moment-là plus sécuritaire parce que, je veux dire, ils ne veulent pas par l'interconnectivité qu'ils ont avec le reste du monde, sont à risque, comme n'importe qui, et faut qu'ils adoptent une stratégie un peu plus sérieuse s'ils veulent garder la mainmise sur le marché.
D'accord avec toi, hein, Steve, hein, mais tu ne penses pas aussi que ça sera, surtout dans ce secteur de la cybersécurité, une personne qui sera plus facilement manipulable, en tout cas par les lobbyistes? Tu ne crois pas quand même que quand un responsable de ce niveau-là commence à annoncer et à indiquer que lui, il n'a jamais touché un ordinateur de sa vie, déjà, c'est une grosse erreur de communication parce que c'est donc la porte ouverte à tous les trolls possibles et imaginables. C'est donc du coup ne pas prendre au sérieux lui et ses équipes. Alors certes, il doit très certainement être entouré, d'autant plus les Japonais, hein, il doit être très certainement entouré de gens très compétents. Mais comme il n'y connaît rien, qu'est-ce qui me dit que si jamais je lui envoie une carte de vœux à la fin de l'année qui passe par le biais d'un de ses contacts très connus ou en tout cas très de confiance, il ne sera pas manipulable? C'est ça qui est inquiétant, c'est que, OK, il est un bon leader, il est un bon gestionnaire, mais c'est comme le cycliste, avant de monter sur un vélo, on sait dans quel sens vont aller les pédales.
Oui, mais quel politicien n'est pas influençable?
Ah, moi, j'en connais plein, mais ils sont tous morts.
Voilà.
Je pense que Daniel soulève un très bon point, à savoir que, justement, il y a une certaine continuité. Là. Moi, ce qui m'a frappé le plus quand j'ai entendu cette nomination-là, c'est Donald Trump et son conseiller en cybersécurité, qui était l'ex-maire de New York, Rudy Giuliani, à savoir que, bon, ce n'est pas un informaticien, c'est un policier de la vieille école, si je ne me trompe pas. Donc, à ce niveau-là, les gens qui sont appelés à gérer les problématiques de cybersécurité ne sont pas des informaticiens, mais bien des politiciens d'expérience. Donc, je pense que ça, c'est symptomatique un petit peu du degré de bullshit qui opère dans le milieu, à savoir que on a besoin de politiciens et non pas d'informaticiens pour gérer l'informatique. Donc, c'est un peu, je pense, dans la continuité des choses que ce ne soit pas justement un informaticien qui soit là-bas au Japon.
Mais à ce moment-là aussi. Excusez-moi, I don't speak English. Que veut dire bullshit?
On va te faire un dessin.
J'ai envoyé des images.
ça va résumer. Oui, il y en a des émoticônes d'ailleurs à ce sujet-là.
Oui.
Mais est-ce que je me fais perdre l'idée. Bon, continuons.
Oui, désolé. En social engineering, je suis très fort pour faire perdre les idées aux autres.
Je vais mettre le bébé qui pleure.
Alors, nous allons mettre le bébé qui pleure, j'allais le dire.
J'en conviens que dans les entreprises, effectivement, qu'un gestionnaire n'a pas besoin d'avoir la connaissance des en tout cas, moi, la cybersécurité dans ce cas-ci, puis dans la mesure où il gère bien, mais dans le cas d'un ministre, c'est un leader et on n'a pas tout à fait le même. C'est pas le même chapeau. Pour moi, ça, il porte pas exactement le même chapeau que quelqu'un
dans un project manager qui fait juste faire des cases. Ouais.
Ça prévient, moi, je trouve, cette situation-là, le micromanagement. Parce que si, quand on a des gens avec une connaissance très pointue d'un sujet qu'ils ont à diriger, à administrer, bien souvent, j'ai vu, en tout cas sur mon chemin, sûrement vous autres aussi, les gars, les gens, là, ils se font une idée, ils se font vraiment une façon de travailler et qu'ils ont de la difficulté à articuler, à distribuer. Et quand ça fonctionne pas selon sa projection, les gens ne l'actualisent pas comme il faut. Il prend en charge, il prend sur lui, puis après ça, il micromanage son affaire.
Dans une structure de gestion intermédiaire, peut-être en hausse. Je comprends effectivement que quand, puis si on le voit couramment, qu'un gestionnaire, qui est, ben, quelqu'un qui a été promu gestionnaire va avoir la malheureuse tendance de maintenir les mains dans le contenu, ce qui est généralement très malsain parce que qu'elle prenne l'ensemble de l'histoire. Mais quand on parle du top, c'est la personne qui est complètement en haut. Et si celle-ci n'a pas de compréhension de comment ce qu'elle gère fonctionne, il y a un certain défi de compréhension parce qu'elle ne comprend pas le langage, elle ne comprend pas les notions, elle comprend. Bon, on ne parle pas que c'est un king en cybersécurité, on parle juste qu'elle n'a jamais ouvert d'ordinateur.
Oui, mais je trouve que sa courbe d'apprentissage va être plus courte à apprendre, juste ce volet-là. Tu sais, on peut le mettre dans une classe une semaine de temps, Cybersecurity 101, ils vont apprendre les rudiments de la cybersécurité, un ordinateur. Oui, ça va aller de dire où est la touche on et où est-ce qu'on met la disquette. Non, monsieur, il n'y a plus de disquette, ça fonctionne en ligne directe. Je veux dire, il peut apprendre ça quand même assez vite. Mais une fois passé cette étape-là, vas-tu le retenir? Y a-tu l'intérêt? Ça reste.
J'imagine le ministre en train de crier: « Oh, j'ai de la poussière dans ma souris sous la boule!
» Oui, nous, on a une blague souvent ça, pour expliciter un petit peu le fait que c'est deux ensembles de compétences différents, à savoir que, bon, comme Nicolas dit, si tu prends un king dans un domaine précis puis tu en fais un gestionnaire, bien souvent, c'est que tu hérites d'un mauvais gestionnaire puis tu perds ton king. Donc, c'est pas toujours un move idéal de prendre les meilleurs dans un domaine.
T'es bon techniquement, que t'es un bon gestionnaire et beaucoup d'entreprises souffrent de ce problème.
Exact. C'est
parce que nous, au Québec, on a eu un médecin qui a géré le service santé.
Oui, exact.
Il n'a jamais été dit qu'un médecin est un bon gestionnaire.
Non plus.
Guillaume.
Je pense que c'est le temps de changer de sujet.
Oui, exact.
Passons à le fait que les systèmes de génération d'électricité et d'énergie au sens large ont certains problèmes.
Ben, pas qu'ils ont certains problèmes, mais il faut encore une fois garder l'œil, s'intéresser à comprendre s'ils sont encore vulnérables ou pas et de toujours actualiser les connaissances. Autrement dit, il y a un exercice vraiment de validation qui a lieu aux États-Unis avec quand même une maquette quasiment en temps réel, pas en temps réel, mais c'est-à-dire grandeur réelle, sur aux États-Unis, dans le pas loin de New York, le Long Island, si mon souvenir est bon. Et l'idée là-dedans, encore une fois, c'est de procéder à faire des vérifications sur les éléments, donc les SCADA, les contrôles industriels qui sont utilisés dans l'automatisation, la distribution d'énergie ou de gestion d'énergie, sont-elles vulnérables et si on sont installés d'une certaine façon, sont-ils encore vulnérables, etc. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les Américains publient souvent qu'ils participent à de ces exercices et laissent savoir aux gens, bien, voici, on est rendu là dans notre état. Évidemment, ils ne dévoilent pas les contenus techniques, ça va de soi. Mais ce qui me surprend des fois, c'est que de savoir, bon, bien, l'intérêt canadien, est-ce qu'il y a autrement dit, on a-tu des représentants d'Hydro-Québec, de Hydro-Ontario qui sont présents, Hydro One, dans ce cas-ci, excusez, qui sont présents pour être capables d'aller encore là, participer à qui, puis je sais qu'il y en a souvent des échanges internationaux comme ça, mais dans ce cas-ci, je n'ai pas eu vent qu'il y avait des gens d'Hydro-Québec qui participaient. Alors qu'il y a peut-être un post-mortem qui est fait par après, sûrement qu'ils vont lire les rapports, mais il n'y a rien de mieux que souvent quand on est sur le terrain d'avoir cet échange-là avec les intervenants, parce que l'infrastructure essentielle, qu'est le réseau de distribution électrique, Hydro-Québec en est quand même un joueur majeur en Amérique du Nord, et c'est encore là. On a vu des exemples qui sont arrivés à travers le monde, à travers l'Europe, ici en Amérique du Nord, que ce n'est pas infaillible, que ces réseaux-là peuvent être peut-être investis de visiteurs non désirés.
Bien, je rejoins ton point là-dessus, puis au sens où on a une culture du secret en sécurité qui, parfois, n'a pas sa place. Et effectivement, des zones, il y a des choses qu'on ne veut pas divulguer parce que cette divulgation-là nous met en péril. Mais en général, on n'a jamais tablé sur le fait que le cachet de l'information vous nous mettre plus en sécurité ne fait que ralentir un potentiel attaquant. Puis même à la limite, au même titre qu'on va mettre des collants de système d'alarme dans nos fenêtres pour faire croire aux voleurs qu'on a potentiellement un système d'alarme, même si qu'il soit là ou qu'il soit pas là, je pense qu'il y a un intérêt de communication de ces grandes entreprises, du moins ces grandes entreprises, on parle d'Hydro-Québec dans ce cas-ci, au moins d'envoyer du signaling, de dire « OK, moi je participe à ces affaires-là, je suis au courant, puis c'est sérieux mes affaires. » Parce que dans le cas où ils tiennent ça dans l'obscurité, on n'a pas ce signal fort-là comme quoi ils sont sérieux. Puis, un peu tout le débat qui a entouré, disons, le concours de social engineering ou Hackfest soulève le fait, est-ce que c'est important que ces entreprises-là signalent qu'ils sont prêts, qu'ils le diffusent, qu'ils publiquement disent on est prêt à affronter, on a des mesures, on a des choses qui font qu'on est prêt. Et là, juste de se cacher, de dire non, on n'est pas prêt, on ne veut pas dire, sinon tiens, ça mord, c'est pas bien que le monde le sache, ce genre de choses-là.
Tu as raison, Nicolas, c'est encore de la sécurité par l'obscurité. Et au gouvernement, plus qu'ailleurs, c'est comme ça. Je veux dire, récemment, j'ai oublié de mettre la nouvelle d'ailleurs, le DGEQ là, qui a paru dans un article du Journal de Québec sous Nicolas Lachance, qui révélait qu'à ce moment-là, eux autres, il y a eu une intrusion qui est arrivée sur un des postes de travail, puis que même le directeur général il a dit non, ça ne s'est jamais passé, mais pourtant, le rapport d'incident dit clairement.
Le document est public.
Comment tu dis?
Le document est public, c'est n'importe quoi. Là. Preuve en plus dedans qu'ils ont détruit la preuve de l'attaque parce qu'ils n'ont pas de incident response. Ils ont pas de
exactement, pour ne pas avoir
personne questionnaire. Un élément qui a été obtenu par un journaliste, un seul, sur 80 ministères et organismes. Imagine comment c'est répandu.
T'en veux-tu une plus drôle? Il a fait une demande d'accès à l'information sur combien d'infections qu'il y a eu au ministère des Transports du Québec. Saviez-vous que depuis 3 ans, il y a 0 infection au ministère des Transports du Québec, des ransomware? Mais il y en a eu 15, il y a 4 ans, 5 ans?
Je comprends pas pourquoi les entreprises ne sont pas fières de leur programme de cybersécurité. C'est un peu ça, c'est comme s'ils étaient gênés de leur posture au lieu d'être fiers. Moi, comme organisateur, je serais fier. On a parlé il y a quelques semaines d'une entreprise manufacturière qui s'était faite frappé par un rançon logiciel. Oui. Il est allé sur l'espace public et on avait un plan, on a limité les dommages, ça nous a touché quand même, on n'a pas spontané à faire, mais notre plan nous a permis de nous relever dans un temps qui était acceptable pour nos choses. Puis c'est la fierté de l'organisation, ce genre de choses-là. Puis c'est comme si on était gêné.
C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de marketing. On a aussi cet énorme problème, c'est que, vous savez, c'est les trois petits singes. Je ne vois rien, je ne dis rien, je n'entends rien. Et les entreprises, aujourd'hui, tant qu'elles n'ont pas compris qu'il faut rassurer le client, mais avant toute potentialité d'attaque, donc ça veut dire qu'ils mettent des structures des hommes et d'intellectuels de l'intelligence, pendant, il faut arrêter de faire croire que ça n'arrive qu'aux autres. Ces entreprises et ces dirigeants doivent aussi admettre que ça peut leur arriver. Et après, faire une communication de crise honnête. Et s'ils ne prennent pas ce triptyque-là en main et qu'ils continuent à se dire « Ah, nous, on est intouchables, on est propres, viens chez moi, client, tu ne risques rien », tant qu'ils n'ont pas cette structure intellectuelle de se dire qu'ils peuvent tomber dans le piège et qu'ils voilà, ils sont dans cet état d'esprit-là. Ils sont, on préfère mentir et écraser, tenter d'écraser la main qui a été prise dans le pot de miel que de dire la vérité en disant « Ça arrive à tout le monde, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on continuera à faire et travaillons ensemble. » C'est ce que fait l'Europe et la France, par exemple, avec le RGPD. Hein. Aujourd'hui, vous êtes obligés de répondre dans les 72 heures. Voilà ce qu'on a fait avant. On a eu un problème idiot. Je vais juste vous en donner un que j'ai eu cet après-midi. Une grosse société qui vend des vêtements. Un bug dans le système qui fait que quand je choisissais un pantalon noir de taille 46, apparaissaient les mails de toutes les personnes qui souhaitaient recevoir un courriel pour leur dire que le produit était arrivé en stock. C'est un bug. Il y a eu quelque chose, il y a eu un schlimli, comme on dit, qui a fait cette perturbation. Eh bien, ça peut arriver. Mais soyez honnêtes, voilà, c'est arrivé. On fera tout pour que ça n'arrivera plus. Continuons à avoir confiance en nous, en vous, mais travaillons ensemble.
L'exemple que j'aime énormément de celle-là, je pense, c'est GitHub ou GitLab, un des deux. Qu'un employé, par erreur, a supprimé toutes les bases de données de production. Ça arrive. Ils ont fait un post-mortem. Ça a été terrible. L'employé n'a pas perdu sa job. Là. Je veux dire, il aurait pu dans beaucoup d'entreprises. Mais non, l'employé a rédigé une partie du rapport public et il a expliqué son erreur. Et l'entreprise a dit, ben maintenant, cette erreur-là n'arrivera plus parce que, évidemment, les contrôles en place n'étaient pas là parce qu'il était pas cet employé-là avait pas d'affaires à déliter rien. Erreur ou non, ils n'étaient pas supposés avoir les droits d'accès pour faire ça. Ils ont corrigé publiquement le tout, etc. Ils ont eu un downtime et des pertes incroyables. Beaucoup d'entreprises qu'on connaît auraient mis dehors, sûrement lui et son équipe.
Bon, on revient sur le fait que faut être fier comme organisation de nos processus de gestion des incidents, de relève, de ces choses. Il faut avoir la fierté. C'est comme si on était gêné de les avoir. Et moi, à la limite, on devrait même avoir une compétition, une saine compétition avec les entreprises. Mon gestion des incidents est meilleure que le tien. Puis moi, je réagis plus vite, puis ça va mieux dans mon entreprise ou dans mon organisation que chez vous. Au lieu de « Oh non, mais je me cache, puis j'ai peur. »
Puis ça revient à ce qu'on parlait au début du social engineering. C'est tellement bon moment de toutes ces entreprises-là de dire « Hey, on en a un processus, on va l'améliorer » ou « Il a fonctionné et on a fait telle chose en arrière. » Soit parce que tu as un appel social ou que tu as une attaque qui nécessairement fonctionne. Tu peux la bloquer. Et ça revient à tout ce que Nick vient de dire. Oh.
On va finir par s'en sortir. On a beaucoup d'éducation à faire, mais on va finir par y arriver.
Puis
on
va... J'ai un exemple que j'ai diffusé là dernièrement. J'ai des entreprises qui m'ont contacté. Elles ont été piégées par un ransomware. La question qui a été primordiale pour les entreprises n'est pas de comment je récupère mes données, comment ça a pu arriver, c'est comment on utilise le Bitcoin pour pouvoir payer.
On est dans un drôle d'univers. Puis c'est financer le crime organisé. Ça, je trouve ça un peu malheureux parce que tant qu'on va
les payer, ils n'ont même pas écouté les films. Là. Dans les films, ils disent on ne fait pas affaire avec les terroristes.
Ça revient à ça. Changeons de sujet. On va aborder le volet de plus vie privée, puis on va commencer par le pacte.
Oui, je pense qu'on a pas mal tous vu passer cette magnifique initiative par tous les dieux de la télé, à savoir qu'on pouvait maintenant, moyennant une signature sur un formulaire en ligne, vous déculpabiliser de toute votre empreinte environnementale et joindre un mouvement massif à l'échelle du Québec qui vous permet là, de peut-être faire partie de la solution. Mis à part toutes les belles ambitions nobles que ce mouvement-là et tout l'aspect politique, oui, un aspect qui m'a vraiment sauté, et bon, bien sûr, en tant que technophile, ça a été directement où vont les données de ce formulaire? Donc, en cherchant, on se rend compte qu'il n'y a absolument aucune politique de confidentialité sur le site, à savoir comment nos données vont être utilisées. Il n'y a absolument aucun contact au niveau de l'enregistrement SSL, c'est fait avec du Let's Encrypt, donc c'est absolument anonyme. Il n'y a absolument aucun contact dans le WIS du domaine, à savoir c'est un domaine anonymisé par GoDaddy. Donc, dans le fond, la grosse question, c'est où vont ces données-là? Et il n'y a absolument personne qui le sait. Donc, il y a des centaines de milliers de Québécois qui se trouvent à signer un formulaire pour se déculpabiliser, puis il n'y a absolument personne qui peut répondre à où sont ces données. Il existe une firme de communication en lien sur le site. C'est le seul contact qu'on peut avoir. C'est une firme de com qui ne répond à absolument aucune question. Parce que quand vous êtes pas un politicien, parce que dans le fond, l'objectif de ce site-là est vraiment politique. Donc, ça laisse vraiment, ça soulève la question à savoir qui est en arrière de ça. Et je vous dirais que plus on creuse, plus c'est flou. Ça rappelle un petit peu ces collectes de courriels qui étaient faites, par exemple, par des partis politiques comme Québec solidaire. Êtes-vous contre le système de santé? Donnez-nous votre courriel, votre nom.
Ah oui, c'est intense, ça aussi.
Hein? Tu reçois après ça les pubs du parti. Donc, c'est ça.
Je ne peux pas oublier que dans un an, vous avez vos élections, vous, hein?
Absolument, exactement. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une collecte de données avec un objectif politique? Est-ce que c'est vraiment juste de la grossière négligence de la part de tout le milieu artistique, technologique, politique et compagnie? Ce que je doute. Parce que je veux dire, ces gens-là doivent avoir quand même des conseillers légaux, des conseillers juridiques qui doivent leur dire, ben voici vos obligations en matière de protection de la vie privée. Je veux dire, on a des lois au Québec et au Canada qui protègent ça. Je pense à la loi sur la protection des renseignements personnels à la fois dans les organismes publics ou privés. Donc, on a plein de lois qui balisent ça. Donc, je voulais soulever ce point-là, à savoir que, qu'est-ce qui se passe avec ça? Et personne ne peut nous répondre. Le mystère perdure.
Ça risque de perdurer pendant un moment encore.
Jusqu'à temps qu'il se ramasse sur...
Parce que personne n'en a parlé.
En fait, moi, j'ai essayé de rejoindre des journalistes et écoute, tu te fais accuser de mauvaise foi et d'essayer d'inhiber un mouvement social progressiste et que on fait un peu des intentions comme si c'était le lobby du pétrole ou des choses.
Vilain pirate,
exactement, oui. Et je pense, comme Mathieu dit, ça fera pas parler jusqu'à temps que cette liste-là se ramasse dans le grand public. Ouais,
2 mois avant une élection. Hey, vous avez supporté d'être vert, maintenant votez pour X.
Yes. Ben oui.
Tu les vois venir, les pirates russes.
Imagine si c'est eux qui volent la liste après. C'est un beau bordel.
Ah là là. On a d'autres nouvelles aussi en vue privée, Steve.
Oui, ça. Oups, microphone. Oui, il est là. Parfait. Donc, oui, dans la vie privée, je veux dire, il y en a qui vont se prémunir. Puis on a pu insérer cette section-là aussi avec les cadeaux de Noël à ne pas recommander. Les bornes Alexa, Google Home, les Siri de ce monde. De plus en plus, on entend des cas qui arrivent des États-Unis qui sont à ce moment-là utilisés par les. Dans la communauté judiciaire, à ce moment-là, il y a des demandes d'accès à l'information auprès de Google, auprès d'Amazon, et que ces bornes-là sont maintenant utilisées dans des contextes judiciaires et même appelées quasiment à témoigner en termes d'entité indépendante parce que les bornes de plus en plus enregistrent évidemment ce qui se passe dans l'environnement courant et les gens ne s'en soucient pas. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? Il y a des crimes. Et après coup, le subpoena demande d'avoir accès à tous ces enregistrements-là. Quand on ça, c'est supposé être juste sous le fait que la borne reconnaît le mot-clé, mais la borne, pour qu'elle reconnaisse le mot-clé, ça écoute constamment. Donc, il y a des situations où ça a été amené, où la justice américaine a eu accès à tous les enregistrements et fait en sorte que ça a soit aidé la personne à se faire libérer pour pouvoir prouver que ce n'est pas elle qui a fait le crime, ou dans d'autres cas, ça a appuyé plutôt l'accusation. Mais ça va, en fait, jusqu'où sont prêts à aller, encore là, éroder leur vie privée au détriment d'avoir cette fonctionnalité-là pour leur dire quelle température il fait dehors, alors qu'ils peuvent s'étirer et regarder par la fenêtre.
C'est quand même fabuleux qu'on soit rendu là, à savoir que, bon, on a toutes sortes d'appareils qui enregistrent nos faits et gestes. Bon, je pense, par exemple, Alexa, Google et compagnie est un bon exemple. Je pense, par exemple, aussi à toutes les Roomba, par exemple, je ne sais pas si vous êtes vous souvenez, ça fait pas longtemps que iRobot ont eu dû admettre que les Roomba upload le design de votre maison dans les bases de données.
J'avais vu ça, c'est vraiment cool. c'est vraiment cool. Le concept du Roomba qui fait le mapping de la maison, technologiquement parlant, c'est cool, mais qu'il l'upload, ça, c'est un peu chiant.
Dans le même sens, le HomePod d'Apple va envoyer des infrasons pour de repérer tout l'environnement spatial autour. Fait que
c'est
un mapping d'égale qualité, mais peut-être même supérieur, parce qu'il voit en 3D le HomePod, contrairement à le Roomba qui est en 2D. Donc,
Donc ça laisse... C'est une époque fabuleuse où nos données servent à toutes sortes de conneries. Donc, oui, je laisse enchaîner, Nicolas.
Et il y a un Roomba qui vole, ça mérite presque un screenshot, ça.
Et Damien avait dit depuis que j'ai caché son Roomba. Non, c'est complètement fou. Dans un univers, on envoie dans le nuage un paquet d'informations qui n'ont aucun sens, qu'on ne devrait pas d'ailleurs envoyer. Puis je ne comprends pas pourquoi les gens... Où les entreprises insistent tant que ça, mais de toute façon, ça, c'est un mime qui circule. C'est les années 60, les gens avaient peur que la télévision les écoute ou les regarde. Puis tu sais, c'était sérieux. Puis maintenant, on est dans un univers où on demande à le fait que quelqu'un qui nous écoute constamment réponde à nos préoccupations les plus banales, puis souvent les plus mondaines.
Oui, le téléphone aussi, Facebook aussi, la plupart des applications écoutent. Vincent du Hackfest. Je me souviens plus. Je pense qu'il parlait d'acheter un certain objet. Il était sur sa liste qu'il voulait avoir via Amazon. Et deux, trois jours après, toutes les pubs ont été de l'objet qui parlait, évidemment. Ouais, il n'avait jamais fait de recherche texte sur cet objet-là. C'est vraiment
ça, c'est un drôle de phénomène. Il y a des contre-démonstrations de ce qu'ils entendent, mais ça, c'est encore incertain. Mais cela étant dit, moi, je parle de mon expérience. Je dois fucker les engins parce que, ou je dois dire des affaires qui mélangent les moteurs parce qu'ils soit ils me disent tout ce que j'ai déjà, ou ils me disent des choses qui ne m'intéressent pas du tout. Fait que je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas ce que je dis pour mélanger les AI de ces engins-là, mais tu vas avoir la formule secrète.
Tu fais beaucoup trop de recherches.
Je vais breveter mon langage non français, puis mélanger tout ça.
Tant que tu dis drama cette fois, tu vas être correct.
Damien a dit drama plusieurs fois. Ah oui, c'est ça. Un Français a dit drama. Là, c'est le comble.
Oui, parce que vous en avez tellement parlé du drama, et en fait, je m'en étais jamais intéressé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, du drama, il y en a partout.
C'était dans ce film. Que c'est triste. Enchaînons, il y a d'autres vitrines aussi que Steve veut nous entretenir.
Oui, on connaît tous ce Big Brother mythique qui se veut d'être vraiment la machine de d'écoute électronique, maintenant on peut la qualifier mondiale, et que là, de plus en plus, dans tous les aéroports aux États-Unis, les gros aéroports, ils vont être munis de reconnaissance faciale pour être capable à ce moment-là d'amener une accélération du traitement du passager pour avoir une meilleure expérience voyage.
On peut en mettre des machines à casino.
Comment tu dis?
Ils vont pouvoir mettre des machines à casino, et c'est une copie de ce qu'ils font depuis quoi, 15 ans, eux autres?
Attends. Puis Damien, il veut dire, en Europe, c'est le même mouvement, je crois, s'accentue de plus en plus, que la reconnaissance faciale va prendre sa place, que ça soit même avec l'utilisation du téléphone intelligent pour faire l'entrée dans l'avion accélérée. Et Orlando était le premier hub avec lequel vraiment tout se transige à travers la reconnaissance faciale. Et ils viennent d'annoncer cette semaine qu'ils vont faire le tout même envers les vols intérieurs. Fait que ça, autrement dit, la question, là, je me souviens pas d'avoir vu le commissaire à la vie privée statuer là-dessus, mais ben, leur réponse, je l'anticipe immédiatement, parce que ça va être vraiment, ils vont lever les deux bras, ils vont dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est les Américains qui l'imposent, on peut pas faire grand-chose. Et mais par contre, c'est là qu'on en est aujourd'hui, où est-ce qu'on ne pourra plus justement faire quoi que ce soit. Notre photographie va être omniprésente partout où on va. Et là, c'est juste les avions, mais j'anticipe immédiatement que les trains et les autobus vont suivre dans un avenir assez rapproché.
On l'a eu dans les centres d'achat, ça s'est fait.
Yes.
Non, même pas de préoccupation. C'est une réflexion marketing et non une réflexion sur la protection. Puis ils ne mesurent pas à quel point ils sont en train d'éroder toute notre vie privée.
Bien, il faut justement le soulever, maintenir le sujet actif. Mais les gens, quand j'en parle avec les gens sur la rue ou peu importe où, ils réalisent.
C'est caché.
Voilà, exactement. Ça me dérange pas, ça m'atteint pas. J'ai rien à cacher, comme tu dis. Merci, Patrick. Puis que malheureusement, il va être trop tard. Puis quand ça va les affecter, ben là, ils vont dire, ben qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je peux m'en sauver? Ben,
le privacy, c'est quelque chose qui touche à tout le monde.
Oui.
Si tu t'en fous personnellement, la journée que ça te touche, ben il est trop tard, comme tu l'as dit.
Exactement.
Et puis on le rend sympathique en plus, hein, la biométrie. Regardez comment ils ont vendu le dernier iPhone.
Ah, yeah, right.
Prenez votre tête, vous serez en caca, vous serez en emoji pool. Les gens trouvent ça fun. On leur vend aussi sous cette forme-là. Donc du coup, si c'est fun, pourquoi le reste serait agressif?
Absolument. Puis on l'a vu aussi, de plus en plus aussi, il y a des services de police, des municipalités qui ont soit des cônes oranges ou des stations de radar pour faire de la sensibilisation sur la vitesse dans des zones. Mais l'autre côté, ils ont un photoradar qui prend en documentation les plaques numérologiques des véhicules qui passent pour être capable de documenter et de tracer qui va où. Ça a été documenté aux États-Unis. Je me souviens pas au Canada qu'il y en ait encore de déployés, mais ça va
en plus. Je pense qu'on en a à Québec de ces
éléments-là. OK.
Et ça va pas s'arranger, hein? Ça ne va pas s'arranger parce que là, regardez, on parle de biométrie. Regardez en Chine, AliExpress qui est en train et qui autorise aujourd'hui le paiement par la biométrie. C'est pour le moment en Chine. Mais il y a un concurrent qui va s'appeler Amazon qui va se dire, oh là là, moi, je veux garder mes parts de marché. J'ai proposé la même solution. La biométrie est en train de rentrer partout et je pense que malheureusement, on est face à un raz-de-marée qu'on ne peut plus arrêter.
La Banque de Montréal et la Mastercard qui est présentement, ils sont à l'essai de faire exactement ce que tu viens de décrire, le paiement par carte de crédit à partir du téléphone intelligent pour être capable d'authentifier la personne.
Il y a un bon vieux dicton qui dit que le droit à la vie privée, c'est un peu comme la liberté d'expression, à savoir que c'est bon. Ceux qui disent que le droit à la liberté, que le droit à la vie privée, ça n'importe peu parce que j'ai rien à cacher. C'est un peu comme dire que j'ai pas besoin de la liberté d'expression parce que j'ai rien à dire. Donc,
très bien dit, Guillaume.
Puis il y avait un illustre français qui avait déjà dit « Donnez-moi n'importe quoi sur quiconque, puis je vais être capable de le tourner dans n'importe quel sens pour réussir à l'inculper de n'importe quoi. » Donc, c'est excessivement dangereux. Puis si on n'a rien à cacher, nos numéros de carte de crédit, pourquoi ils ne sont pas publics?
Oui.
Fait que ce débat-là est pervers parce qu'il est mal, il est tellement gammé pour faire que des gens ne le comprennent pas à la vraie valeur de ce qu'ils sont. Je pense parce que c'est dans l'intérêt de gens, de, que les gens ne comprennent pas la finalité de cette divulgation-là extrême de nos vies, de la publicité qu'on en fait, de ouais. ce qui s'en fait. Puis c'est moi, juste...
Non, je voulais dire, moi je suis étonné, c'est que les gens ne sont pas au courant, mais que la biométrie est dans leur vie, rien que déjà quand ils sont sur Facebook. Lisez la fake, la foire aux questions. Quand Facebook vous dit, quand vous téléchargez l'intégralité de votre vie Facebook, il y a vos messages, vos mails, mais il y a un petit encadré qui vous dit qu'il garde aussi des points de votre visage pour que vos amis vous reconnaissent. Déjà, la biométrie, elle est là sans même que les gens sont au courant. Ah, c'est bien beau, nous, en Europe et en France, on a eu des petites fenêtres depuis le RGPD qui nous disaient « Souhaitez-vous réactiver ce qui était interdit chez vous, la biométrie ?» Sauf qu'avant tout ça, dans la fake de Facebook, il y avait déjà une information qui disait « Ah, on a votre visage. » Alors, ce n'est pas vous, vous êtes un numéro, mais ce numéro permet à vos amis qui diffusent vos photos de vous reconnaître. Les gens ne sont même pas au courant de ça.
Encore pire... Pour avoir développé plusieurs applications Facebook via l'API Facebook, quand que tu vas chercher des objets de type photo, tu as accès à des rectangles sur cette photo-là, les coordonnées des 4 pixels de coin qui correspondent au visage et des fois qui peuvent être linkés à d'autres si tu peux avoir été tagué. Ça a d'ailleurs été démontré que tu peux te servir de cette capacité de Facebook-là pour bâtir des bases de données de visage qui peuvent servir à de la reconnaissance faciale. Ça a été fait jadis. Puis si on se reporte dans le passé, il y a quelques années où les applications Facebook avaient pratiquement accès à tout votre cercle d'amis et leurs photos et compagnie. Maintenant, c'est rendu plus limité. L'application a juste accès à votre profil quand vous l'autorisez et les amis qui l'ont aussi autorisé. Mais jadis, c'était une façon absolument faramineuse d'aller chercher des centaines de milliers, voire des millions d'informations sur des individus, y compris leur biométrie.
Oui. C'est des sujets fort intéressants. Je pense qu'on va devoir les creuser dans d'autres épisodes parce que là, on a... un épisode excessivement dense cette fois-ci, je n'ai pas...
Vous êtes à la 4e heure du podcast.
c'est ce que vous avez... Fait qu'on fait un rapport, fait qu'on a abordé plein de sujets super intéressants. Alors, on vous donne rendez-vous, une panoplie de podcasts qui vont sortir dans les prochains jours, prochaines semaines, parce qu'on a beaucoup de backlog qui a été pris, puisque l'Access a gommé beaucoup de temps pour... a divergé du temps de podcasts vers d'autres...
Ça doit être à peu près quoi, là? 3 heures du matin, Damien?
Là, c'est simple, hein? Le jour se lève.
À ce point-là, fait que je vous souhaite une bonne semaine, puis on se revoit prochainement.
Ciao, ciao!
Bye. Salut! Ah.
Thank you.